Faire de belles choses, embellissement, perfection. Perfectionner n'est pas parfait, mais tendre vers le parfait qui est Dieu, plus communément appelé l'excellence en français. Husn, c'est littéralement la beauté. En islam, Ihsan est la responsabilité musulmane d'obtenir la perfection ou l'excellence dans le culte, de sorte que les musulmans essayent d'adorer Dieu comme s'ils le voyaient. Et bien qu'ils ne puissent pas le voir, ils croient sans aucun doute qu'il veille constamment sur eux. Cette définition nous vient du fameux, célèbre hadith de Jibril, que la paix soit sur lui, dans lequel Mohammed déclare « L'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si vous le voyez, car si vous ne le voyez pas, alors en effet, lui vous voit. » C'est un hadith célèbre où Jibril vient enseigner notre religion par des questions où le prophète, que la paix et la grâce sur lui, lui répond. Ihsan, c'est le plus haut degré de la foi, mais en réalité, c'est un chemin constant, en parallèle de tout. Les trois niveaux de notre religion, notre montagne spirituelle, ont été révélés au prophète, que la paix et la grâce soient sur lui. Et nous allons revenir sur ce hadith. Omar ibn al-Khattab, que la paix soit sur lui, raconte, et je le cite, « Un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs se présenta à nous. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et personne parmi nous ne le connaissait. Il prit alors place, face au prophète, plaça ses genoux contre les siens, posa ses paumes sur les cuisses du messager et lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » L'envoyé de Dieu lui dit alors « L'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'y ait de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, qui est l'aumône légale, que tu effectues le jeûne de Ramadan et que tu fasses le hajj pour celui qui le peut, pour celui qui en a la possibilité. » L'homme lui répondit « Tu as dit vrai. » Et Omar dit « Nous fûmes étonnés. » Il l'interroge et ensuite il atteste de sa véracité. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est qu'en fait, vous allez poser une question à quelqu'un, vous voulez vraiment avoir la réponse, et quand la personne vous répond, vous lui faites comprendre que vous le saviez déjà, en fait. Oui, je confirme que ce que tu as dit est la vérité. Il reprit et il dit « Informe-moi sur la foi, elle y mène. » Le prophète dit « La foi, c'est que tu aies foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier. » Que tu aies foi aussi en la destinée, que cela concerne le bien ou le mal. » Il répondit encore, « Tu as dit vrai. » Et sa dernière question se posa sur « El-Ihsan ». Il reprit, « Informe-moi sur El-Ihsan ».« El-Ihsan », répondit le prophète, « consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » Puis il continue, « Informe-moi au sujet de l'heure du jour dernier. » Celui qui a été interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. « Alors parle-moi de ces signes annonciateurs. » Ce sera lorsque la femme esclave donnera naissance à sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds mal vêtus, nécessiteux, qui gardent les troupeaux, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. Puis il partit, et plus tard le prophète dit à Omar, « Sais-tu qui m'interrogeait ?» Il répondit, « Allah, c'est plus que tout autre, et son messager, c'est plus que nous. » C'était Jibril, venu vous enseigner votre religion. Ce hadith, il est incroyable. On a toutes les sens, l'islam, l'iman, l'ihsan. Cette narration expose le voyage qui est devant nous, et également le passé, de l'enfance religieuse à la maturité spirituelle, l'abandon, la foi et l'excellence. Lorsque chacun de ces termes sont utilisés de manière unique et isolée, ils font référence à la totalité de la foi. Lorsque nous déclarons pour la première fois notre témoignage de foi, la shahada, en connaissant sa signification et en y croyant vraiment, la semence de la foi, là, elle est plantée dans nos cœurs. Et on commence notre voyage, notre randonnée. L'islam, c'est ce qu'on devrait faire. L'iman, c'est pourquoi on devrait le faire. Le concept d'ihsan peut être principalement associé à l'intention. Et celui qui fait ce qui est beau, est appelé un muhsin. Et on lit dans le Coran à plusieurs endroits qu'Allah aime ceux qui font le bien, ceux qui font les belles choses, les belles œuvres, al-muhsinin. Un muhsin, c'est celui qui est généreux, celui qui fait de bonnes actions. Et al-ihsan, c'est la bonté même. Ihsan signifie également perfectionner, exceller ou faire preuve de compétence. On pourrait donc considérer que le mot ihsan a un double sens, bonté et excellence. Nous, musulmans, on doit s'efforcer d'atteindre l'excellence, la compétence et la perfection dans toutes les bonnes actions que nous faisons. Une civilisation ne peut pas s'élever si les gens ne font pas de leur mieux pour obtenir les meilleurs résultats dans tout ce qu'ils font. Si vous êtes étudiant, vous ne devriez pas concentrer vos efforts sur la réussite seulement de vos examens et de passer, la moyenne pour valider. Non, vous devriez aspirer à augmenter vos connaissances tout au long de l'année universitaire et à la fin, montrer ce que vous avez appris en obtenant les meilleurs résultats possibles. En tout cas, faire de votre mieux et le faire bien. Ne pas bâcler. Je pense que le contraire d'al-ihsan, ça serait bâcler les choses, les faire de manière nonchalante, avec indifférence. Si vous êtes un enseignant, vous ne devriez pas simplement vous tenir devant la classe et donner une leçon. Vous devriez faire de votre mieux pour avoir un impact positif sur vos élèves, ajouter quelque chose à leur connaissance, à leur cœur, à leur cerveau. Et la même chose s'applique si vous travaillez dans une usine ou produisez n'importe quel type de produits, de services, etc. On ne doit pas se contenter de faire quelque chose qui a l'air bien à l'extérieur, mais qui ne fonctionnera que pendant la moitié de sa durée de vie prévue, par exemple. Rapporté que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « En vérité, Allah aime que lorsque l'un de vous fait un travail, il le perfectionne. » Perfectionner, c'est rendre parfait ou plus proche de la perfection, car seul Dieu est parfait. C'est poursuivre jusqu'à son terme, porter à sa plénitude, parfaire, compléter, achever, épanouir, finir, terminer. Ne serait-ce qu'avec ces mots, on se rend compte qu'il y a énormément d'actions qu'on ne perfectionne pas et qui sont loin de l'ihsan. Ne serait-ce que par le terme finir ou terminer, nombre d'actions, d'habitudes que nous avons essayé de mettre en place et que nous avons abandonnées. Finalement, c'est accroître les qualités de la chose qu'on fait, la valeur de la chose qu'on fait, la rapprocher du modèle idéal. Et cela, non pas seulement dans nos actes d'adoration au sens strict, mais dans tous les domaines de notre vie. C'est important. Car le prophète, Mohammed, que la paix et la grâce soient sur lui, n'a pas dit que al-ihsan, c'était adorer Allah comme s'il le voyait dans notre prière ou dans notre jeûne. Il l'a dit, l'adorer. Et l'adorer, ça passe par énormément de choses. À partir du moment où vous avez cette vision, cette conscience d'être un musulman qui veut faire les choses avec embellissement, avec perfection, alors on parcourt clairement tous les domaines de notre vie. De nos relations personnelles avec les autres, à notre relation avec nous-mêmes, dans nos relations professionnelles, dans notre travail, nos études, mais pas que, dans notre relation avec nos voisins, même quand nous parcourons la route, quand nous enlevons quelque chose d'un chemin, dans notre relation avec nos parents, notre famille, dans toutes les actions que nous faisons, comme le sport ou un projet. Qu'il soit associatif et qu'il semble déjà très noble aux yeux des gens, ou n'importe quoi. Tenir une maison, faire que votre maison soit belle, sente bon, vous donner des objectifs, peu importe quelle est la vision à long terme, tant qu'elle est licite et qu'elle est bonne, vous donner des objectifs et les atteindre par un ensemble d'actions. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut trouver sa vocation, ce pourquoi Dieu nous a mis sur terre, chacun, individuellement. Car si on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qui n'est pas inné chez nous, quelque chose pour laquelle nous n'avons pas été envoyés sur terre, forcément, nous le bâclerons. Ça sera un travail sans épanouissement, donc un travail qui sera en général mal fait. C'est un leurre pour nous, pour les autres, et un vice finalement. Quand nous signons un contrat, par exemple, avec un patron, on signe pour faire notre travail de la meilleure des manières, pour être actif, pour ne pas procrastiner, etc. Mais on le sait, hein, j'en parlais dans mon live Twitch sur les bullshit jobs et le non-sens au travail. Aujourd'hui, nombreux sont les gens qui font un travail qui ne les épanouit pas et donc qui le bâclent énormément. Des fois, je vois des réels ou des vidéos et ça me fait rire parce que c'est vrai. De gens qui mettent des autocliqueurs sur leur ordinateur pour être connectés sur Teams ou qui vont faire des siestes ou regarder Netflix pendant qu'ils travaillent, etc. Et je les blâme pas du tout parce que c'est des choses que j'ai faites aussi. C'est juste que nous, en tant que musulmans, on doit se poser et se dire « Ok, là, si je fais ça, c'est qu'il y a un problème, je bâcle mon travail, je ne réponds pas à mes engagements, je m'ennuie, je ne m'épanouis pas. Comment je peux faire pour changer ma vie pour que je puisse soit avoir des actions qui me permettent de vouloir les faire et les réaliser avec Hassan, ou comment je peux là changer mon quotidien pour réaliser ces choses avec Hassan. Peu importe ce que vous faites, vous devez toujours réfléchir de cette manière. Et c'est bien sûr un rappel aussi à moi-même. Les êtres humains, ils ont été créés avec une volonté interne de rechercher un but et de vivre pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir ce but-là, ça va être difficile de perfectionner quelque chose. Et là, je parle de petites choses également. Je ne parle pas de grands buts, je ne vous parle pas de changer le monde. Déjà, si on arrive à se changer soi-même, vous connaissez le dicton, ou qu'on change les personnes de notre cercle, de notre réseau nucléaire, les gens de notre famille, etc., on aura déjà fait beaucoup. Un autre exemple, éduquer ses enfants. Être maman, être papa, c'est un grand projet. Le préparer au mieux, ça serait par exemple en amont, se préparer nous, psychologiquement, émotionnellement, être prêt à recevoir cet être que nous allons éduquer, que nous allons aimer, etc. C'est quelques mois avant s'interroger sur la psychologie des enfants, sur tout ce qui est nutrition, santé, et le plus important, la pédagogie. Et c'est ensuite, dans le présent, dans les faits, agir de la meilleure des manières en appliquant tout ce que vous avez appris et en essayant tous les jours de faire mieux. On a des failles, bien sûr, comme je le disais au début, nous ne sommes pas parfaits. Mais le but est d'essayer d'être le plus proche de l'idéal. L'islam, ce n'est pas simplement un ensemble de règles et de croyances, mais ça contient également des graines d'amélioration constante de soi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est un concept très marketé en entreprise, le Lean Management, qui est un concept d'amélioration continue des processus. Et c'est complètement ce que nous préconise notre religion. On nous a appris à nous rapprocher de plus en plus du Créateur, à devenir d'excellents adorateurs et leaders moraux également, au point que notre volonté individuelle et la volonté éternelle du Créateur deviennent parfaitement alignées. C'est ce que nous connaissons comme la station d'Ihsan, l'excellence religieuse. C'est le sommet même de la montagne spirituelle dont on parlait juste avant. D'un point de vue externe, on va nous présenter souvent une gamme d'options dans une situation donnée. En termes de jurisprudence, nous pouvons avoir le choix entre faire quelque chose qui est recommandé ou simplement admissible. Allah nous dit dans le Coran, « J'ai de bonnes nouvelles à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui en suivent le meilleur. » Par exemple, lorsque nous sommes lésés, que quelqu'un nous fait quelque chose et qu'on s'est senti opprimé, victime d'un leurre, d'une injustice. On peut choisir d'avoir recours aux représailles légales qui sont définies par l'islam, ou on peut choisir de pardonner. Et Dieu nous dit dans la sourate 42, verset 43, « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Il nous dit aussi dans la sourate 16, ayat 126, « Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l'offense subie, mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. » Et c'est applicable à beaucoup de choses. Il existe de nombreuses actions recommandées, des sunnans que nous pouvons choisir de pratiquer ou non, tout comme on peut choisir de décorer sa maison ou de la laisser complètement neutre. De plus, on nous présente parfois deux avantages ou deux inconvénients dans lesquels nous devons considérer le plus grand des deux biens ou le moindre des deux maux. J'explique par une citation de Ibn Taymiyyah qui a dit « L'intelligent n'est pas celui qui connaît le bien et le mal, mais plutôt celui qui peut reconnaître le meilleur de deux biens ou le pire de deux maux. » M-A-U-X. Cette phrase, j'ai pris un moment pour la méditer parce que je la trouve très profonde et compliquée au départ. Et de cette façon, identifier et mettre en œuvre la meilleure action dans deux actions qui sont déjà bien et qui sont licites et qui sont belles, dans un cadre approprié, fait partie de la recherche de l'excellence et du perfectionnement dans notre culte et nos actes plus globalement. Et on le rappelle, Ihsan ne signifie pas nécessairement la perfection. Nous n'avons pas été créés pour être des êtres parfaits. Comme l'a dit le prophète, que la paix et la grâce soient sur lui, tous les enfants d'Édem sont des pécheurs, et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent. Nous faisons des erreurs, et nous commettrons des péchés, mais une partie de l'excellence, c'est de remplir justement les conditions du repentir sincère. C'est pour cette raison qu'Allah nous dit « être conscient d'Allah autant qu'on le peut, autant qu'on en est capable ». Et pour les actes d'adoration, on peut se demander comment on peut progresser vers des états supérieurs de manière assez systématique et constante. Et on a une méthode prophétique qui a été révélée dans une description. Le prophète nous relate qu'Allah Tout-Puissant a dit « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi avec quelque chose de plus aimé de moi que les devoirs que je lui ai imposés. Mon serviteur continue de se rapprocher de moi avec de très bonnes œuvres jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe et son pied avec lequel il marche. S'il me demandait quelque chose, je lui donnerais sûrement. S'il me demanderait refuge, je lui accorderais sûrement. » La clé de l'amélioration de soi, c'est de choisir une bonne habitude. Elle pourrait être aussi simple qu'une invocation en plus, et qu'on s'y tienne jusqu'à ce qu'elle devienne routinière et constante et avec conscience qualitativement qu'elle soit belle. Et Aïcha, qu'Allah l'agrée, décrit comment le prophète a développé des habitudes constantes, des bonnes habitudes. Elle a dit « Si le messager de Dieu dormait pendant sa prière nocturne ou qu'il était malade, il priait 12 unités de prière dans la journée. » Donc même si pour quelque raison que ce soit, il était incapable de compléter son habitude de prière nocturne, il l'a rattrapé pendant la journée. Il essayait de compenser. Pour ne pas perdre cette habitude, ça on peut le voir nous dans nos pédagogies de développement personnel, etc. Il faut faire perdurer les habitudes. Et notre bien-aimé prophète nous dit « Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis. » Et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Cela même s'il est petit. Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. On a vraiment l'essence de la manière dont on doit agir dans toutes nos actions dans ce hadith. Et d'ailleurs, le prophète, il n'a jamais prescrit la même routine dans les actions recommandées, bien sûr, à ses compagnons. Dans sa sagesse, il savait ce qu'ils étaient capables de faire et il ne prescrivait pas les mêmes routines à toutes les personnes qui lui ont demandé. Il s'adaptait à leur personnalité, à leur niveau, à leurs possibilités, etc. Et il a plutôt découragé les musulmans d'assumer plus de pratiques qu'ils ne pouvaient raisonnablement en soutenir, en disant « Vraiment, la religion est facile et nul ne se surcharge en religion sans qu'elle, la religion, ne le submerge. » Et il disait même à un compagnon « Oh Abdallah, ne sois pas comme un homme qui se lèverait pour prier la nuit, mais qui abandonnera plus tard sa prière de nuit. Par cette méthode lente, mais stable, incrémentale, un croyant se rapproche d'Allah et de l'état d'excellence. » Bien sûr, si on a des envies de se rapprocher de Dieu, de lui parler, de faire des actes d'adoration en plus, alhamdoulilah, il ne faut pas du tout se restreindre. Si vous avez envie cette nuit d'aller prier, faites-le. Mais il est plus sûr et il est plus aimé de Dieu de faire les choses avec planification et stratégie. Vous avez envie d'instaurer une nouvelle habitude, alors pensez-y et essayez de prendre en compte votre niveau de départ pour essayer de bien la faire. Comme je le dis souvent, par exemple, une formule de dhikr est plus utile si elle est dite tous les jours, que si vous le faisiez aujourd'hui 1000 fois, et puis plus jamais de toute l'année. Parce que le rappel de Dieu constant et régulier, même s'il est fait en petite quantité, est préférable. Et si on sort des sphères des adorations au sens strict, nous avons aussi plein de choses à voir dans la dounia, comme on aime l'appeler. Nous avons grandi, nous, en consacrant une grande partie de notre temps, de notre énergie et de nos ressources à la réussite, qu'elle soit scolaire, sportive, professionnelle, etc. Peu importe, c'est nos objectifs de dounia, ils sont importants. On a perfectionné nos compétences pour exceller dans notre travail, on a fait des heures supplémentaires pour livrer un projet, on a galéré à l'école, on a fait des examens, on a appris des choses par cœur, ou alors on s'est formé dans un métier manuel, ou en tout cas on essaye de s'en sortir. Et on sacrifie parfois notre santé pour réaliser ses objectifs et d'autres étapes qui viendront sûrement par la suite. Et d'ailleurs, il est aussi important de voir, par rapport à cette dichotomie dounia et din, que pour le coup, on est beaucoup à réussir à faire énormément d'efforts et de planification dans nos objectifs scolaires, professionnels, etc. Et souvent, on n'a pas la même rigueur dans nos objectifs religieux, spirituels au sens strict, alors qu'on en est capable finalement. Est-ce que on a eu la même approche que quand on révisait nos examens et qu'on avait peur de pas les avoir, de pas avoir la moyenne, de pas avoir le bac, etc. Est-ce qu'on a déjà mis autant d'efforts dans notre religion pour se donner un vrai objectif? À la fin de l'année, je veux être capable de ça et je vais tout faire pour. Et à l'autre extrême, on a aussi des musulmans qui font clairement des efforts pour l'excellence dans les actes spirituels, dans les adorations, et qui négligent tous les autres domaines de leur vie, ou au mieux, qui font un travail médiocre et qui vont bâcler, ils font pas d'efforts pour faire un excellent travail dans leur carrière ou autre, dans leur vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et ils jugent que rien de lié à la dounia n'est digne d'effort, d'un effort supplémentaire, etc. On a tous des gens comme ça dans notre entourage. Ils font le minimum et ils se disent « Ouais, mais ça, c'est la dounia. » Vous voyez ? Mais en fait, c'est pas ça, être un muhsin. El-ihsan n'est pas réservé seulement aux actes spirituels. El-ihsan, ça doit être tissé dans le caractère du musulman, afin que tout ce qu'il touche brille et se démarque. C'est vraiment ça. C'est notre corps, ça doit être un objet de lumière et d'embellissement. On a comme un pinceau de feuilles d'or et tout ce qu'on touche, on le rend brillant. Et c'est beaucoup plus dur, hein. Il y a beaucoup plus de gens qui préféreront faire les choses de manière médiocre ou bâclée. Mais ce n'est pas la manière la plus aimée de Dieu de faire quelque chose. Et pour les quelques âmes qui choisissent d'aller au-delà du simple fait de faire la tâche, et qui vont consacrer des pourcentages d'efforts supplémentaires pour faire ce travail de la meilleure des manières, Allah vous aimera parce qu'il révèle à de nombreuses occurrences dans le Coran qu'il aime les gens qui font de belles choses, des bonnes choses, qui font de la meilleure des manières les choses. Et c'est ainsi que les gens, que les personnes qui font cela s'améliorent. Parce que si on n'essaye pas, on ne peut absolument pas se tirer vers le haut. Et d'ailleurs, c'est une concurrence, une compétition que le prophète, ce qu'il appelle la grâce sur lui, nous a encouragé. On s'encourage à rivaliser les uns avec les autres dans la bonté, dans les accomplissements. Donc choisir la voie de l'excellence et se motiver entre nous, c'est aussi une très belle façon de comprendre l'émulation entre des personnes qui essayent de viser le meilleur. Bien sûr, là, on a dressé le portrait de ce que Dieu, ce que le prophète nous enseigne. Mais je sais que parfois, en tant que personne, et je l'expérience aussi dans ma vie, on est très occupé, on est juste fatigué. On n'a pas parfois le luxe du temps, de l'énergie ou d'autres ressources pour pratiquer l'excellence. Je le vois autour de moi, que ce soit pour des examens, pour un travail qui est difficile, ou pour des parents qui ont des enfants et pour qui parfois la fatigue se fait vraiment sentir, des responsabilités ou ne serait-ce qu'un traumatisme émotionnel, psychologique, etc. Parfois on n'a pas les ressources nécessaires, on n'y arrive pas, On essaye, on fait de notre mieux, mais c'est compliqué. Et parfois, on ne fait pas de notre mieux. Vraiment, on se contente du minimum, mais parce que c'est compliqué. Parce que c'est dur. C'est dur, et on a tous été en mode survie au moins à un moment de notre vie. Où on se dit, non mais là, on cherche pas à faire les choses bien, on cherche juste à les faire. Là, non, je cherche pas des objectifs, là, je veux juste survivre en fait. Et la vérité finalement, c'est que l'excellence, elle est à mettre à toutes les échelles. Et que lorsque la vie devient difficile, votre yacène se manifeste dans la façon dont vous allez réagir, dont vous agissez dans ces temps de détresse émotionnelle, dans la façon dont vous gérez vos problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se perdre, s'enfuir, se rebeller, s'effondrer, etc. quand elles sont confrontées à un problème. Et on a également vu autour de nous, je pense, des musulmans qui sont très sages et qui font face aux problèmes de front, en contrôlant leurs émotions avec grâce, et qui restent très reconnaissants et optimistes, etc., même dans les situations les plus difficiles. Et finalement, c'est ça la beauté d'El Ihsan. C'est pas forcément de faire le mieux dans vos actions, des fois ça peut juste être avec votre pensée. Ça peut juste être dans la manière dont vous voyez les choses. Et parfois aussi, cet Ihsan, il est impossible à développer. Parce que comme on le disait avant, Allah, il a mis en chacun de nous une potentialité, un potentiel unique. Et ce potentiel-là, quand il est mal exercé, ou quand on l'a mis dans une cage, ou qu'on l'a mis à la mauvaise place, eh ben, il ne peut pas du tout s'épanouir et briller. Et là, il peut que détruire votre volonté de vous parfaire. Alors comment on pourrait rêver d'être excellent dans quoi que ce soit si on ne vit pas à la hauteur de ce plein potentiel? Et ça, ça passe aussi par l'ihsan. Revoir les choses, changer notre vision, être flexible. On voit, on fait l'analyse et on se dit « Ok, ça, c'est clairement pas pour moi. Je pense pas que c'est ce pourquoi je suis bon, donc je change de trajectoire. » Ça me fait penser à une anecdote, j'écoutais un podcast qui présentait la vie de Jeff Bezos. Et en fait, il disait que quand il était parti à la fac, il avait fait des études. Franchement, je ne vais pas chercher, mais c'était soit de maths, soit de physique. Il me semble que c'était la physique. Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas le meilleur et qu'il ne serait pas le meilleur. Que son cerveau, de manière innée, il n'arrivait pas en fait à être au top de ses capacités. Mais il était bon, hein, mais il n'était pas le meilleur. Il n'arrivait pas à faire de son mieux au point de se dire « je suis excellent ». Et du coup, il a changé et il est parti en maths. Il me semble que c'est dans ce sens. Et là, il était vraiment très bon. Il était excellent. Donc à un moment, il s'est posé et il a revalorisé sa situation. Il s'est dit, ok, moi mon potentiel pour le développer à fond, je pense que ça sera plutôt dans une autre filière. Et ça, on peut le faire dans toutes les choses de nos vies. Et si on ne puise pas dans notre véritable potentiel, alors on va se priver sérieusement de vivre une vie dont on pourrait regarder en arrière et en être fier. Une vie vécue sans regret parce que vous avez fait de votre mieux en tout, une vie où vous avez profité et apprécié chaque occasion que Dieu vous a envoyée. Et on ne peut absolument pas nier le fait qu'un musulman qui profite de son plein potentiel, peu importe dans quel domaine de la vie, c'est un musulman qui va changer la société. Même à 0,001%, même de manière microscopique, c'est un musulman qui change la société dans laquelle il est. Il y a beaucoup trop de façons d'aider la communauté, d'aider le monde, de s'aider soi-même, et on a beaucoup de choses à faire. Et vous n'avez pas besoin pour ça de vous dire « aujourd'hui j'aide qui ? Aujourd'hui qu'est-ce que je fais ? Comment je peux être active dans une association ? Comment ci, comment ça ?» Bien sûr, c'est très bien. Mais déjà, juste être excellent dans ce que vous faites, ça vous donnera de grandes opportunités d'aider les gens, ne serait-ce que d'inspirer des personnes qui passeront après vous, ou d'être un exemple pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, ou tout simplement d'apporter au monde par votre travail qui est bien fait. Dans El Ihsan, on a aussi beaucoup de qualités et d'attributs du bon comportement, et à contrario, d'absence des mauvais attributs. Le bien-être des gens et la bonne conduite sont considérés comme une grande vertu dans l'islam. Le pardon, la clémence, la compassion, la miséricorde, par exemple, et à l'inverse, les mauvais attributs que sont la haine, la jalousie, l'orgueil, la colère, vont plutôt être condamnables et sont des vices qui sont très destructeurs. En faisant l'ihsan, par exemple, nous n'avons pas de discrimination, que ce soit en termes d'ethnie, de caste, etc. L'islam nous prescrit la fraternité universelle. On n'est pas méprisant envers quelqu'un d'autre en raison de sa condition sociale ou autre. Et l'ihsan, d'ailleurs, c'est pas limité seulement aux humains, mais c'est aussi pratiqué avec toutes les créations et les créatures de Dieu. En bref, l'ihsan, c'est un travail d'amour, pas simplement un devoir. Et cela ne peut résulter que d'un sentiment intérieur de présence de Dieu et d'amour pour lui. L'essence de l'ihsan, c'est l'amour de Dieu. Parce que ça implique un attachement profond, un amour profond, une fidélité authentique, sincère, un sacrifice, des efforts. Et le prophète, que la paix et la grâce soient sur lui, nous a enseigné cela avec ses paroles, mais il nous a aussi montré comment atteindre ses compétences. Dans un sens pratique, c'était un vrai modèle pour nous et nous a donné de grands exemples. Un des plus grands exemples, c'est a été son pardon complet et inconditionnel envers les Mécois qui l'avaient torturé, même au point de comploter pour le tuer, etc. Qui avait torturé sa famille, son groupe, à un tel point qu'il a été forcé de fuir vers Médine, mais il a pardonné. Quand on pratique l'ihsan avec un cœur rempli d'amour de Dieu, alors l'effet résultant sur lui, c'est que tout notre être, notre cœur, va subir un changement. Et il va devenir digne de cet amour. Et Allah, il nous dit dans la sourate 2, ayah 195, « Et pratiquer l'ihsan, vraiment Allah aime les faiseurs d'ihsan. » Je ne traduis pas volontairement parce que ça enlève la signification profonde qui est l'ihsan, qui est plus que l'excellence. L'islam, en fait, est venu construire une société, c'est un modèle de civilité, de courtoisie, de considération pour les autres. Et cette religion, elle le fait en mettant l'accent sur ses attributs comme une question vraiment de foi. Et un hadith nous dit qu'elle y mène la foi à 77 branches. Et la plus élevée, c'est la déclaration qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Et le plus bas degré de cette foi, c'est le retrait d'un objet nuisible du chemin. Même ça, c'est une trace de foi. Et en dessous de cela, il n'y a pas d'hymen. Donc, si même retirer quelque chose du chemin fait partie de notre foi, on voit que cette considération pour les autres et pour la création globalement tout au long de la vie du prophète Mohammed, c'est vraiment l'exemple sur lequel on doit se baser. Et cette attitude-là, elle se manifeste dans des détails mineurs parfois. Par exemple, chaque fois que le prophète visitait un groupe ou certaines personnes, dormaient et d'autres non, il va les saluer d'une voix suffisamment basse pour que ceux qui étaient éveillés puissent l'entendre et ceux qui dormaient ne seraient pas dérangés. Là, on est vraiment dans l'intelligence émotionnelle aussi du prophète qui est magnifique et je vous renvoie au podcast With the Heart in Mind qui est sur ma chaîne. Chaque soir, quand il se levait, il sortait du lit très tranquillement afin de ne pas déranger sa femme endormie. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un commettre un tort qui devait être corrigé en public pour l'éducation des autres, il le mentionnait en termes généraux, sans nommer la personne qui l'a fait. Cette dernière pratique, elle montre également les deux extrêmes à cet égard qui doivent être évités. D'une part, il y a la tentation de faire des compromis sur la question du bien et du mal, pour éviter les sentiments blessés, etc. Donc là, on est dans l'empathie extrême, on va dire. Vous savez, par exemple, dans le MBTI, c'est la distinction entre la lettre F et la lettre T. C'est être vraiment dans le F. Penser que toute vérité n'est pas bonne à dire si ça peut heurter quelqu'un. Et d'autre part, il y a la tentation de corriger le mal avec mépris total du fait que quelqu'un pourrait être blessé ou insulté. Là, on est dans le T. Toute vérité est bonne à dire, peu importe ce que ça fait à l'autre. Et je sais pas si vous vous rendez compte, le prophète s'y trouve des justes milieux à toutes les situations. C'est incroyable. On peut voir ces attitudes extrêmes chez les gens, dans l'un ou l'autre, que ce soit dans le laxisme ou dans l'extrémisme, on va dire. Et ça semble être des pôles distincts en termes de pratique de la religion, mais en fait les deux découlent de la même religion, et on a des exemples de choses faites avec l'ihsan. Et comme on le voit, parfois l'ihsan, c'est pas forcément de faire les choses dans la précipitation ou d'aller voir quelqu'un, de lui dire oui, nanani, nanana. Justement, El Ihsan, c'est être un stratège. C'est se dire, moi, mon but, c'est que la personne, elle change. Quelle est la meilleure des manières pour que cette personne-là change? Est-ce que moi, c'est juste, je fais mon devoir? Ah, moi, je t'ai fait le rappel, hein, tu prends pas, tant pis. C'est ça, être un musulman? C'est ça, essayer de vouloir le meilleur pour son frère? N'est véritablement croyant que celui qui veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Mais en faisant ça, en se disant « moi je donne le conseil, ensuite la personne elle change pas, c'est son problème », là on n'a pensé qu'à nous, là on pense qu'à ce qui est bien pour nous, mais la personne, est-ce qu'on va véritablement la faire changer? Certains oui, hein, bien sûr, ça peut être la pédagogie pour certains. Mais il faudra réfléchir peut-être plus profondément et avec plus de finesse pour d'autres. Et je pense qu'il est bon de rappeler avec tout ça que l'islam c'est un mode de vie. Et qu'on doit soumettre toute notre vie et non un petit sous-ensemble de nos choix, de commandements, etc. Et d'ailleurs lorsqu'on regarde autour de nous la création d'Allah, on voit la perfection. On voit qu'Allah a fait les choses avec beauté. Enfin, on ne peut pas le nier en fait, dès qu'on sort dehors. Mais regardez la beauté de la création. Que ça passe par des animaux, des fleurs, la faune, etc. Mais aussi par la perfection dans laquelle tout est agencé. Par nos émotions, par notre corps, par l'univers. Tout ce qui se passe est perfection. C'est fait avec précision, efficacité, fonctionnalité, beauté. Et Allah, il nous rappelle son travail parfait dans plein de ayats. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah. Et à lui appartiennent toutes les louanges et les grâces, et il est capable de tout faire. Et vous voyez les montagnes en pensant qu'elles sont rigides, tandis qu'elles passeront comme le passage des nuages. Tel est l'art d'Allah qui dispose de toutes choses dans un ordre parfait. En effet, il est au fait pour savoir ce que vous faites. Et si Allah aime qu'il fasse lui-même tout avec perfection, il n'est pas surprenant qu'il aime aussi de nous qu'on agisse avec beauté dans notre travail. Et dès lors, le mot Ihsan y prend des significations encore plus profondes. Et on peut en citer quatre sous-parties qui sont tirées du tefsir qu'on peut faire de tous les passages où Dieu nous parle d'El Ihsan et de faire les choses d'une bonne manière. Un, on a l'exhaustivité, terminer ce qu'on a commencé. Deux, on a le goût, faire les choses d'une manière agréable. 3. On a la justesse, faire les choses de la bonne façon. Et 4. La sincérité, faire les choses avec sincérité et les bonnes intentions. El-Ikhlas. Commencer quelque chose et le laisser à mi-chemin, c'est pas aussi excellent que de le terminer. Le simple fait de terminer une tâche n'est pas aussi excellent que de le faire d'une belle manière. Terminer une tâche d'une belle manière, mais incorrecte, c'est pas vraiment impressionnant. Là, on a manqué le 3 qui est la justesse. Et terminer une tâche d'une manière belle et correcte et vraiment exceptionnelle qui se démarque, mais avec une mauvaise intention. Une intention imparfaite, motivée par l'ego ou par le vide. Est-ce qu'on peut vraiment penser que c'est une action faite avec Ihsan? Bien sûr que non. Et Dieu nous dit dans la sourate 18, ayat 104, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Dans une autre traduction, ceux dont les œuvres dans cette vie sont totalement dévoyées, mais ils pensent qu'ils font le bien. Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas s'est égaré alors qu'ils pensent faire le bien. Ne gaspillons pas nos efforts par une mauvaise intention. Travaillons sur notre cœur, sur notre ego, en premier lieu, et réunissons les autres conditions, les autres caractéristiques pour faire de nos actions des actions vraiment complètes. Si on devait conclure en une phrase, incarner Al-Ihsan signifie que vous allez passer plus de temps à faire du bien, à faire tout ce qui est important d'une excellente manière et à le faire pour plaire à Dieu et non pour vous plaire à vous-même ou pour plaire aux autres avec une bonne motivation. C'est aussi repenser toutes vos actions, qu'elles soient mondaines, profane ou sacré, pour essayer de les enjoliver et de les planifier, de faire les choses de la meilleure des manières et surtout avec conscience. et non avec indifférence. J'essaierai de vous donner des conseils comme je le fais depuis un certain temps maintenant sur la manière d'embellir nos actions, sur la manière de mener des projets. Ça me tient à cœur, notamment au niveau de l'orientation par exemple, car je sais que si on est mal orienté, on peut vite décrocher et devenir médiocre dans nos études ou ce genre de choses. Donc Inch'Allah, j'essaierai de vous donner plus de clés, car je sais que la théorie peut être parfaitement assimilée, et j'espère que cette théorie-là vous aura motivé à commencer votre semaine, en plus pour ceux qui écoutent en direct, durant ce mois béni, ce mois sacré qui est le mois de Ramadan, pour peut-être revoir, on est à la mi-Ramadan quasiment, nos objectifs, et revoir comment faire les choses avec Ihsan pour cette fin d'année, voir comment on peut essayer de réviser et de parfaire au mieux nos examens, ou de voir comment on peut s'épanouir dans son travail, ou peut-être le reconsidérer. D'ailleurs, je vous en parlerai bientôt de comment moi, j'ai vécu cette théorie, par exemple, dans le monde du travail, et comment je me suis dit que c'était pas possible de bâcler autant un quotidien, juste par peur, en fait, de se lancer dans autre chose. Et faire les choses avec Ihsan, parfois, c'est aussi faire des choix. Donc voilà, j'essaierai de vous donner des billes pour pratiquer ça de manière concrète. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment beaucoup de courage, de force et de motivation dans vos entreprises, entreprises au sens large, dans ce que vous entreprenez au quotidien. Et je vous souhaite une bonne semaine, que la paix soit sur vous et que Dieu vous aime.